Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous. À 3 semaines du premier tour des élections municipales, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du mensuel Leur Avis, en partenariat avec Radio Grenouille. Avec nous, pour cette émission, Valérie Boyer, députée marseillaise, porte-parole de Martine Vassal et candidat dans le 11-12. Mais avant de tchatcher, comme c'est l'usage, voici le portrait de notre invité. Dans la grande famille tumultueuse et divisée de la droite marseillaise, vous êtes, Valérie Boyer, l'élu qui emporte haut la main le palmarès du plus vu à la télé, la préférée des journalistes parisiens. Ce n'est donc pas par hasard si Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille, dont la notoriété ne dépasse pas les Bouches-du-Rhône, vous a choisi pour sa campagne comme porte-parole nationale. Dans la salle des colonnes de l'Assemblée nationale, vous n'êtes jamais la dernière à lancer une punchline assassine pour clouer au pilori le gouvernement. À Marseille, hors des frontières de votre circonscription, la 8e, et de la mairie de secteur, le 6e, que vous avez dirigé avant de passer le relais à un proche, Julien Ravier, vous êtes moins médiatique. Né à Bourges, en 62, dans une famille de pieds noirs, votre carrière dans l'administration sanitaire, d'abord à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, puis à l'Agence régionale d'hospitalisation, vous conduit dès 88 à poser vos bagages à Marseille. Proche de Tessier, vous entrez en politique et dans la majorité Gaudin en 2001. Vous avez alors 39 ans. Mais c'est aux législatives en 2007 que vous renversez la table en mettant fin à la dynastie de la famille Mas dans un bastion jusqu'alors socialiste. Député, vous prenez très vite la lumière en vous emparant de sujets de société comme l'anorexie, les violences conjugales ou d'enjeux chargés d'affect comme la profanation des lieux de culte, la reconnaissance des génocides, la surveillance des djihadistes. Adhérent de la droite populaire, fondée par Thierry Mariani, aujourd'hui rallié à Marine Le Pen, vous assumez vos convictions conservatrices et votre catholicisme. Vous étiez porte-parole de François Fillon et membre, jusqu'au bout, du noyau dur des fidèles du candidat déchu à la présidentielle. Les mauvais esprits rappelant vos liens supposés avec le régime syrien, votre condamnation pour le licenciement abusif d'une assistante parlementaire, soulignent que vous ne portez pas toujours chance. Mais tous, même vos adversaires, reconnaissent votre pugnacité. Il va vous en falloir pour convaincre les électeurs en une campagne éclair que votre candidate, Martine Vassal, incarne un nouveau départ après 25 ans de gouvernance Gaudin. Une réaction à ce portrait ?
D'abord, je dois vous dire qu'avec Martine, nous nous sommes choisis parce que ça fait longtemps que nous cheminons ensemble dans la vie politique. Et je ne pense pas que ce soit vu à la télé qui ait fait
on
que...
On vous voit quand même sur les plateaux télé.
Oui, parce que je fais mon travail de députée à Paris. Et parce que je défends un certain nombre de choses. Vous avez oublié des choses importantes, comme par exemple le confinement des pièces d'habitation autour de l'usine Arkema, qui a servi de modèle pour la France entière autour des zones PPRT. Vous avez oublié la défense du savon de Marseille, qui a servi à créer des IPG. Vous avez oublié les combats pour la santé, pour la pénalisation du négationnisme, pour les génocides. Vous avez oublié peut-être aussi tout ce qui concerne le droit des femmes et de la famille, parce qu'il n'y a pas que les violences conjugales. Il y a aussi de faire de l'enfant victime, témoin des violences conjugales, une victime. Bien également, il y a aussi protéger les mineurs des violences sexuelles, par exemple, pour ne parler que des dernières propositions de loi qui sont les miennes. Il y a aussi toutes celles qui sont liées à la mémoire, aussi pour notamment pour... pour tout ce qui s'est passé en Afrique du Nord, pour le 5 juillet, pour la rue d'Ilsley, etc. Tout ça, effectivement, ce sont des convictions que je porte, parce que je pense que dans la vie publique, il faut avoir des convictions et puis il faut aussi rassembler autour de ces convictions. C'est ce que j'essaye de faire en m'adressant au plus grand nombre.
Alors effectivement, on est allé vite parce que la séquence, elle est sur les municipales, sur le local. Bon, peut-être quand même une réaction sur l'actualité nationale. Alors, il y a le social, les retraites, toujours ce mouvement qui dure. Et puis maintenant, ça se passe à l'Assemblée. Et vous n'êtes pas la dernière à critiquer le gouvernement sur la façon dont est géré ce dossier des retraites.
Alors effectivement, vous avez rappelé mon parcours une partie de mon parcours professionnel. Il se trouve que une de mes premières expériences professionnelles, ça a été à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc effectivement, comment on calcule les retraites, comment ça se passe pour la retraite, c'est un dossier que je connais bien et que j'ai porté au début de ma vie professionnelle. Et là, j'avoue que je suis absolument atterrée de la façon dont le gouvernement enfin par la façon dont le gouvernement s'occupe de ce dossier qui est majeur, parce que ça fait partie de la mer des batailles, les retraites. D'abord, ça concerne une grande partie de notre PIB, 14%, c'est 350 milliards, donc c'est pas rien. Et dans un pays qui a dépassé les 100% d'endettement, qui est parmi les pays d'Europe occidentale, des pays développés, qui a le plus gros taux de prélèvements obligatoires, hein, parce que c'est la France qui tient le pompon, comment déjà, un, envisager une réforme des retraites sans politique familiale? Deuxièmement, comment aujourd'hui, sur un dossier dont Emmanuel Macron disait qu'il était superbement géré par le Majax des retraites, en l'occurrence Jean-Paul Delevoye, qui a soi-disant travaillé pendant 2 ans pour concerter, etc., on en arrive à un tel chaos social, à un tel désespoir. Et je trouve que cette réforme, elle est à la fois coûteuse et particulièrement injuste. Parce que plusieurs choses. D'abord, concernant l'universalité, il y a longtemps que ce régime n'est plus universel, puisque Emmanuel Macron a sanctuarisé des régimes qui sont déficitaires, comme les régimes spéciaux. Et ça, c'est quand même incroyable. Ensuite, il y a de grosses inégalités sociales, notamment liées à ce qui se passe pour les femmes et les carrières des femmes, parce qu'on oublie aujourd'hui une chose très particulière qui concerne vraiment la France, c'est que quand vous êtes une femme et une mère et que vous travaillez, parce qu'effectivement on a des enfants pendant son activité professionnelle, c'est comme ça que ça se passe, c'est la biologie qui veut ça. Eh bien, la société avait un double accompagnement. Cet accompagnement, bien sûr, c'était la prise en charge par l'assurance maladie de la grossesse, mais c'était aussi du temps, parce que c'était des trimestres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes françaises, pour 79% d'entre elles, c'est pas rien, elles prennent leur retraite avant 64 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu 1 ou 2 enfants, et ou 3, comme par exemple, comme moi, et que ces enfants, eh bien, ça leur donne la possibilité d'avoir 8 trimestres. Vous avez 8 trimestres par enfant, et donc ça vous permet de prendre la retraite plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on sait parfaitement qu'une femme qui a des enfants, sur le plan du déroulement de carrière, elle prend à peu près 10 ans de retard dans son déroulement de carrière, que c'est un investissement social. Et supprimer ce contrat social, supprimer ce lien aussi générationnel, eh bien, je trouve que c'est casser la solidarité. Et moi, ça fait partie des choses qui me révoltent énormément dans cette réforme des retraites, toutes les exceptions au régime universel, des réformes qui sont insuffisamment préparées, une réforme des retraites qui n'a plus de réforme que le nom. Et moi, je soutiens ma famille politique qui fait des propositions qui sont à la fois sérieuses et financées, parce qu'en plus, ce que propose Emmanuel Macron n'est pas financé.
En même temps, vous jouez, comme dirait Macron, hein, en même temps, vous jouez un peu à front renversé, parce que Macron, en voulant faire un régime unique, en voulant remettre en question des régimes de
mais
la fonction
Macron
publique...
Mais Macron ne fait pas un régime unique.
C'était la promesse, en
non,
tout cas.
Non, mais la promesse, elle est déjà tuée dans l'œuf.
Est-ce qu'il ne va pas réussir cette réforme que la droite voulait réaliser depuis des années et toujours un petit peu Juppé, hein, qui avait essayé et qui s'était cassé les dents?
D'abord, il faut les seules réformes qui ont fait... Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui par rapport aux pays européens sur les retraites? Parce que Mitterrand a passé la retraite à 60 ans. Et ça a été un gros handicap. Et c'est vrai que la réforme Fillon-Sarkozy permettait d'arriver doucement à conjuguer l'augmentation de l'espérance de vie et la durée du travail. Elle concernait le régime général et c'est vrai qu'il fallait aller plus loin pour les régimes spéciaux, pas les régimes autonomes. Parce que les régimes autonomes aujourd'hui, comme par exemple celui des avocats dont on a beaucoup parlé, mais c'est pas le seul régime autonome. Les régimes autonomes, ce sont des régimes qui participent à la solidarité nationale, qui sont assez vertueux pour être excédentaires et avec cet excédent, ils ont anticipé le gap démographique. Et aujourd'hui, que veut faire Emmanuel Macron? Il veut piquer la caisse, c'est-à-dire prendre l'argent des régimes autonomes alors qu'ils, j'insiste, hein, alors qu'ils couvrent leurs besoins, qu'ils ont anticipé les difficultés démographiques et surtout qu'ils participent très largement à la solidarité nationale. Par ailleurs, enfin, moi je comprends pas pourquoi on touche cela. En revanche, les régimes spéciaux, qui sont des régimes déficitaires, qui ne couvrent pas leurs besoins et pour lesquels le régime général vient en complément, c'est-à-dire les salariés, par exemple, du régime général, eh bien, cela, il les a sanctuarisés. Donc, où est l'universalité ? Moi, je ne suis pas du tout opposée au fait que à situation professionnelle différente, il y ait des mesures pour la retraite différentes. Je veux dire, un avocat en libéral, ce n'est pas, par exemple, un médecin salarié. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est normal de s'adapter. C'est normal aussi de prendre en compte la pénibilité. Et c'est la raison pour laquelle le système des trimestres était quelque chose, d'abord, qui était compris par tout le monde. Et je pense qu'une réforme sociale, quand elle est comprise par tout le monde, eh bien déjà, elle est acceptée. Et je trouve que c'est extrêmement destructeur et ravageur sur le plan social quand on détruit des totems. Et la solidarité à la française pour les retraites, notamment avec ce système de retraite, avec ce système de trimestre, eh bien, ça permettait à tout le monde de comprendre et d'adhérer au système. Qu'il faille l'ajuster, qu'il faille le modifier, c'est une évidence. D'un autre côté, ne pas répondre aux besoins des femmes, ne pas répondre aux besoins des personnes qui, aujourd'hui, ont été vertueux dans les régimes autonomes. Sanctuariser les différences là où elles sont, où il y a, si vous permettez cette expression un peu triviale, des mauvais élèves, ben, je trouve que c'est de l'injustice sociale.
Bon. Alors,
surtout que cette réforme n'est pas financée.
On vous réinvitera sur une législative.
Un dernier point. Oui. Un dernier point. Et c'est le cas de le dire justement. C'est du point dont je veux parler. À partir du moment où on est incapable de garantir la valeur du point, comment voulez-vous que ça ne génère pas de l'angoisse? À juste titre d'ailleurs. On sait parfaitement que tous les pays qui ont mis en place des régimes par points, quels qu'ils soient, je pense notamment à certains pays du Nord, où je crois le Portugal qui avait mis ce régime par points, ben, à un moment donné, ça a été justement une variable d'ajustement. Et la France cumule à elle seule la dette française, c'est la somme de toutes les dettes des pays européens. Donc vous voyez quand même la fragilité budgétaire de la France. Comment, avec une situation avec zéro réserve, un déficit de 2000 milliards, une dette qui dépasse les 100% du PIB et un taux de prélèvement qui est à 57%, le plus élevé d'Europe occidentale, on peut avoir de la marge pour financer des retraites, surtout des retraites par points. Donc voilà un petit peu pourquoi moi je m'oppose pas à Emmanuel Macron par sectarisme, puisque je rappelle que dans ma famille politique, quand même, nous avons voté 40% à peu près des textes que proposait Emmanuel Macron, même si on pense que ça va pas assez loin, qu'on n'est pas d'accord, etc., parce que certains ont pensé qu'ils allaient dans le bon sens, comme par exemple le texte sur les violences conjugales. Franchement, moi, j'aurais préféré qu'on aille plus loin, mais on l'a voté parce qu'il y avait un certain nombre de progrès. En revanche, le sectarisme, il est du côté d'En Marche, qui a voté moins de 1% des textes des oppositions, que ce soit les Républicains, ma famille politique ou d'autres familles politiques, dont pourtant je rappelle quand même que 50% des députés La République En Marche sont directement issus du Parti socialiste, donc ils auraient pu trouver des liens et faire en sorte que un certain nombre de propositions qui viennent du Parti socialiste puissent être votées. Ben c'est pas du tout le cas. Donc le sectarisme, c'est quelque chose qui est quand même qui est comme un petit peu dans l'ADN de En Marche aujourd'hui.
Bon, alors on a envie de vous entendre parler des municipales qui arrivent à grands pas, même si la campagne a eu du mal à démarrer. Peut-être nous dire qu'est-ce que c'est que ce porte-parole national. Alors vous êtes aussi candidate, on y viendra.
Vous savez, Martine Vassal a construit avec 400 experts un projet qui tient en quatre verbes: respirer, travailler, protéger, partager. Pour ces quatre verbes, ces quatre actions, elle a choisi des experts. Par exemple, pour partager, c'est Joseph Arakel. Pour protéger, c'est le général David Caltier. Pour travailler, c'est Stéphane Soto. Et pour l'environnement, vous savez, c'est le professeur Naon et Frédéric Collard. Là, sur le plan national, moi, j'ai plaidé pour que ma famille politique donne l'investiture à Martine Vassal pour la mairie, enfin pour la candidature à la mairie de Marseille. Et donc, elle m'a demandé de la représenter parce que nous sommes proches, parce que nous avons toutes les deux envie de faire en sorte de gagner cette ville pour la faire entrer dans le 21e siècle et pour mettre en œuvre des projets qui vont dans le sens de l'intérêt de tous.
Alors vous parlez assez directement, on l'a entendu hein, déjà sur la question des retraites. Ce qui revient en boucle au sujet de Martine Vassal, sa candidature et puis celle de votre équipe, c'est cette difficulté finalement à incarner un renouvellement quand on a été au pouvoir à Marseille depuis un quart de siècle, depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Martine Vassal, l'héritière?
Dans la vie politique, on hérite de rien. Oui. Et s'il y en a bien deux qui savent ce que c'est Martine Vassal et moi. On sait parfaitement combien ça a été difficile de conquérir. Tout à l'heure, vous y faisiez allusion, nos circonscriptions. En 2007, à chaque renouvellement législatif, pour moi, ça a été une épreuve différente, puisque j'ai même eu droit à des dissidences, y compris d'ailleurs pour les municipales en 2014. Quant à Martine Vassal, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié cher sur sa candidature. Quand elle s'est présentée pour briguer la présidence du département, elle l'a emportée. Effectivement, à cette époque, je l'avais beaucoup soutenue également.
À l'époque, elle avait déjà été choisie par Jean-Claude Gaudin,
elle avait incité à mener l'opposition.
Elle avait été choisie. C'était pas trompé d'ailleurs.
Excusez-moi, elle avait été choisie, rien du tout. Elle était présidente du groupe d'opposition au conseil départemental et elle a été choisie par les électeurs et après par les conseillers départementaux pour être présidente du département. C'est elle qui a gagné le département, c'est personne d'autre.
Jean-Claude Gaudin le dit très clairement, il le répète, sa candidate, son choix pour lui succéder, c'est Martine Vassal.
C'est pas parce que Jean-Claude Gaudin nous soutient, ce que j'apprécie énormément, et notamment dans le cadre de la formation politique à laquelle nous appartenons et qu'il a en partie fondé lui-même, hein, l'Union pour un mouvement populaire, hein, puisqu'il était un des trois fondateurs de ce parti politique. Ce que j'apprécie, parce que moi j'aime la loi et la fidélité dans la vie publique, y compris dans ce domaine, que c'est la candidate choisie par Jean-Claude Gaudin. Alors, je voudrais qu'on soit très clair là-dessus. Mmh. Déjà, Martine Vassal, quand elle gagnera ce que j'espère et ce que je souhaite, la mairie de Marseille, ce sera le premier mandat de Martine Vassal. Et en cela, je ne vois pas en quoi il y a un héritage.
Le premier mandat.
Ce sera le premier mandat de maire de Marseille de Martine Vassal.
Oui, tout à fait. Oui. Oui. L'héritage, il est par exemple sur les listes, c'est-à-dire que les sortants, Jean-Claude Gaudin l'avait dit, je soutiendrai la liste où je retrouverai le plus de sortants. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'on
a beaucoup d'adjoints. Les listes sont renouvelées, je crois, à 70%. Donc il est tout à fait normal qu'on retrouve des personnes qui sont ancrées, enracinées sur leur territoire, qui ont remporté des combats. Vous savez...
Nos confrères de Marsactu ont regardé la liste de près et ont remarqué que dans les secteurs les plus gagnables, les trois grands secteurs traditionnellement dits de droite à Marseille, on trouve par contre inversement 70% des candidats qui sont déjà dans la majorité actuelle.
En 2014, par exemple, je parle de mon secteur, le 11e et 12e arrondissement, dont je suis la députée et dont j'ai été maire, on avait renouvelé à une... très 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 largement les listes. Mmh. Pourquoi se séparer de personnes qui ont fait le job, qui travaillent, qui sont enracinées sur leur territoire? Et franchement, moi je ne suis pas pour le gagisme, le dégagisme, le bougisme et faire table rase. Quand vous voyez comment ça se passe avec La République En Marche, ça donne pas envie. Moi je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir des personnes expérimentées. Qu'est-ce que ça veut dire de bouger, de dégager tout le monde? Ça veut dire que le parcours personnel n'a pas d'importance, que l'expérience n'a pas d'importance, que ce qui a été fait ne compte pas, que le contact avec les Marseillais doit être passé par perte et profit au motif qu'on céderait à la mode du bougisme? Non. Moi je crois qu'il est très important aujourd'hui, et je dirais en plus à la lumière de la Macronie, d'abord on s'autoproclame pas un jour en disant je vais être maire de Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Je pense que les Marseillais, ils méritent du respect, ils méritent un parcours, ils méritent un programme, ils méritent un travail, ils méritent des compétences. Et les compétences, bah, ça ne s'acquiert pas en étant comme ça autoproclamé. Ça se travaille. Et moi, je crois que le parcours de Martine Vassal, qui a été chef d'entreprise, qui a été adjointe au maire, présidente du département, présidente de la métropole, qui a fait un parcours sans faute à la tête du département et de la métropole, qui a été élu très largement à la métropole, y compris avec des voix qui ne sont pas de sa famille politique. Sans faire offense à Jean-Claude Gaudin, elle a fait un score plus important à l'élection à la présidence de la métropole, que Jean-Claude Gaudin. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est adressée à tous, d'une part, et d'autre part, parce que elle a travaillé d'une façon qui allait dans le sens de la gestion et de l'intérêt général. Je vais vous citer deux chiffres. Pendant 20 ans, sous les présidences Bernardini et Guérini, la ville de Marseille, au titre de l'aide aux communes, a eu 100 millions d'euros en 20 ans. Vous savez, l'aide aux communes, c'est le budget qu'a le conseil départemental pour soutenir des projets comme la voirie, les équipements sportifs, ce genre de choses. Et Marseille, pendant 20 ans, a eu 100 millions d'euros. Martine Vassal, en 5 ans, pour Marseille, il y a eu 200 millions d'euros. C'est pas du clientélisme, parce que pendant ce temps...
En même temps, c'est sa famille politique qui dirigeait la ville.
Pendant ce temps... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On distribue pas l'argent quand on est à la tête d'une collectivité en fonction de ses copains. Où ça s'est vu? Ça, moi, j'appelle pas ça l'intérêt général. Justement, c'est ce que Martine Vassal n'a pas fait.
Donc, alors, d'autres lui reprochent, sur le Pays d'Arles, par exemple, d'avoir privé d'aide aux communes, certaines communes qui n'étaient pas favorables à la fusion.
Dans le territoire métropolitain, on lui reproche tellement ça, tellement ça, que je vous dis... Pratique 80% des maires la soutiennent, y compris des maires qui ne sont pas aux Républicains, y compris des maires qui ne sont pas de sa famille politique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a travaillé avec tout le monde dans le cadre de l'intérêt général et qu'elle n'est pas sectaire et qu'elle ne s'est pas intéressée à l'étiquette politique du maire, mais qu'elle s'est intéressée au projet. Et pour Marseille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enfin la piste cyclable sur la corniche. Ça veut dire qu'on a la fin du, que le boulevard urbain sud est en train de se construire. Que le cours Lyoto, le cours Lyoto est en train de se terminer. Ça veut dire que Sakakini, le Jarret, c'est en train de se terminer. Voilà des grands projets qui étaient complètement en sommeil et qui sont en train de se terminer pour les Marseillais. Alors c'est sûr qu'on vit la période des travaux, c'est un petit peu compliqué.
Je reviens quand même sur le bilan. Et alors je vais te citer Guy Tessier, peut-être vous me voyez venir avec mes gros sabots. Ça date un peu, mais enfin c'était 2013. Guy Tessier, qui est un de vos parrains en politique, et c'est dans Valeurs Actuelles.
Vous savez, il n'y a pas de parrain non plus en politique ni d'héritage. Hein.
D'accord.
Non, mais à un moment donné, j'ai beaucoup d'amitié pour Guy Tessier, mais les élections, je les ai gagnées sur mon territoire. C'est pas Guy Tessier
qui a gagné. Présenté à votre place. Voilà. J'en n'en doute pas. Donc c'était dans Valeurs Actuelles, journal que vous fréquentez aussi. Vous avez signé une tribune il n'y a pas très longtemps dans ses colonnes. Et c'était féroce.
J'en signe pas que dans Valeurs Actuelles. Il m'arrive d'en avoir dans Le Monde ou dans le Huffington Post ou dans d'autres d'autres médias.
Je parle de Valeurs Actuelles. Alors il parlait de Jean-Claude Gaudin.
Une bonne lecture.
Tout dysfonctionne, vous voyez. Tout dysfonctionne dans cette ville. On assiste malheureusement à la fin du règne de Jean-Claude Gaudin, qui n'a jamais été un homme d'entreprise. Il est assis dans son fauteuil, il ne veut pas en bouger, etc. Enfin, cette ville s'enfonce, son maire ne prend plus de décision. Marseille était simplement maquillée pour ressembler à une carte postale, etc., etc. Un autre élu de droite, hein, je cite pas Mélenchon, Muselier, qui parlait de deux mandats pour rien, d'un contexte politico-mafieux, d'une fin dramatique, de l'état de la ville catastrophique. Et donc, encore une fois, je reviens sur ce bilan et sur cette équipe qui est derrière Martine Vassal et qui est l'équipe des sortants. Comment vous dépatouillez de cette problématique ?
D'abord, ce n'est pas ma façon de parler et pas ma façon non plus je ne pense pas du tout la même chose.
Muselier qui soutient aujourd'hui Martine Vassal.
Bien sûr.
Un peu tardivement.
Muselier qui soutient de toutes ses forces Martine Vassal, Guy Tessier également. Je pense que pendant les mandatures de Jean-Claude Gaudin, Marseille a changé. Marseille a bougé. Marseille n'est pas devenue qu'une carte postale. Il y a eu d'énormes projets qui ont été faits. Alors effectivement, on n'a peut-être pas tout réussi. On n'a peut-être pas pu aller aussi loin qu'on l'aurait imaginé. Mais néanmoins, franchement, les Marseillais, ils sont beaucoup plus contents des changements opérés à Marseille par Jean-Claude Gaudin, par exemple, que les Parisiens ne le sont de ceux d'Anne Hidalgo. Parce que j'ai rarement vu une maire sortante jeune se faire autant conspuer qu'elle. Marseille a bougé, Marseille a changé. Et on peut pas dénier l'amour et l'engagement qu'a eu Jean-Claude Gaudin pour sa ville.
Donc, continuité ou rupture avec ces 25
Mais
années
pourquoi
qui viennent de
s'écouler. Est-il nécessaire de céder à cette mode que je trouve totalitaire du bougisme, du dégagisme? C'est une équipe avec des personnes nouvelles et des personnes expérimentées qui est derrière Martine Vassal, qui n'a pas à rougir de son bilan, qui n'a pas à rougir de ses actions, bien au contraire, et qui est ouverte à des personnalités qui sont fortes et qui sont nouvelles, comme à chaque élection municipale, à chaque scrutin de liste. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, dans le 11e et 12e arrondissement, Julien Ravier, qui a été élu maire en 2017, devrait partir au motif qu'il fait partie de l'équipe ancienne. Pourquoi se séparer de Didier Parakian, qui a porté haut les couleurs de Marseille dans le monde entier? Pourquoi ne pas travailler avec Frédéric Collard, qui est un grand professeur de médecine? Je ne vous parle que de cela, mais il y en a bien d'autres.
Alors ça, c'est pour les personnes. Ensuite, il y a eu un rapport qui a fait beaucoup de bruit, celui de la Chambre régionale des comptes, qui en conclusion disait, à propos de Marseille, parler des difficultés rencontrées par la ville qui ont pour origine commune une absence de stratégie claire et une insuffisance dans le pilotage de ses actions et peu économe au niveau des deniers publics. Ce rapport, là aussi, est-ce qu'il y a une volonté? Alors, il y avait en particulier la CRC pointée la gestion du personnel dispendieuse. Est-ce que là, au niveau de la gouvernance, vous pensez que Martine Vassal peut apporter quelque chose de nouveau? Alors, vous n'aimez pas le terme de rupture, mais un changement par rapport à la façon dont les choses étaient faites à Marseille.
Martine Vassal, elle a fait ses preuves au département. Elle a fait ses preuves dans sa délégation. Elle a fait ses preuves à la métropole. Je vous citais tout à l'heure les projets les plus visibles qui sont en train de sortir de terre grâce à sa volonté, grâce à son action. Donc, pourquoi la renvoyer à un bilan qui n'est pas le sien, alors qu'elle en a un à la tête du département où elle a aidé Marseille? Écoutez, moi, en tant qu'ancien maire des 11e et 12e arrondissements, aujourd'hui, en binôme avec Julien Ravier dans le 11e et 12e arrondissement, je peux vous dire que grâce à l'action de Martine Vassal, nos quartiers ont changé. Nous avons, par exemple, pu engazonner tous nos stades. Nous avons pu équiper énormément d'associations, de complexes sportifs. On a avancé sur des travaux de voirie. On a avancé sur la requalification de places, comme par exemple la place Jean-Baptiste Auffan. Et on a d'autres projets sur la réfection de l'avenue Montaigne à Saint-Barnabé. Donc, ce sont des exemples parmi plein d'exemples que je veux vous donner. Quand Martine Vassal est arrivée à la tête du département, je me souviens, on a fait deux choses ensemble. La première, je lui ai demandé qu'elle puisse, pour les femmes victimes de violences conjugales, mettre à disposition plus d'appartements pour elles. Immédiatement, j'ai été en contact avec ses services et elle a fait ce qu'elle pouvait faire dès qu'elle est arrivée pour le domaine des violences conjugales. Dans un domaine totalement différent, on a aussi travaillé avec elle et avec d'autres pour la santé. Martine Vassal, par exemple, c'est mettre énormément d'argent pour l'hôpital de la Timone pour pallier aux carences de l'État. Voilà deux exemples qui montrent comment ça bouge et combien ça bouge avec Martine Vassal.
Je reviens sur la question de la gouvernance. De nombreux commentateurs remarquent le poids assez exceptionnel et singulier qu'a le syndicat Force ouvrière des territoriaux à Marseille. On parle d'une co-gouvernance depuis une histoire qui remonte à Defferre et que Gaudin aurait finalement hérité pour le coup. Et il a la carte d'honneur de ce syndicat. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose à faire de différent ou ça fonctionne pas si mal que ça et on peut continuer?
Écoutez, là vous me parlez des mandats passés. Moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on s'inscrive dans l'avenir, qu'on s'inscrive dans le projet, qu'on travaille, par exemple, à l'augmentation de la police municipale pour mieux protéger les Marseillais, dans le projet de Marty de Vassal, sans augmentation d'impôts, bien sûr. On a le projet d'embaucher entre 150 et 200 policiers municipaux par an, de façon à mieux protéger les Marseillais et surtout faire en sorte que cette police municipale, elle puisse se trouver disponible dans les territoires, puisque vous savez qu'on veut créer un poste de police municipale dans chaque secteur de Marseille. On voudrait renforcer les patrouilles.
Sur ce point-là, je m'arrête parce que vous en parlez. Dans le document de campagne de Martine Vassal, à l'article protégé, vous parlez assurer le retour de l'ordre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ordre? Enfin, est-ce que c'est pas c'est toujours pareil? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un problème d'ordre et un dysfonctionnement que Martine Vassal veut corriger dans cette ville?
Deux choses. D'abord, c'est pas un problème malheureusement que marseillais, c'est un problème national. Vous avez vu récemment les chiffres nationaux de la délinquance qui n'a cessé d'exploser, y compris les violences aux personnes, les attaques, etc. Moi, récemment, j'ai interrogé le ministre sur les attaques au couteau, puisqu'il y en a 120 par jour aujourd'hui en France, pour lui demander quelles mesures on peut prendre, et en inspirant du travail qui a été réalisé pour les violences conjugales, où on a entre 120 et 140 morts par an de femmes essentiellement qui sont tuées dans le cadre directement, hein, parce qu'il y a malheureusement beaucoup plus de victimes dans le cadre des conjugicides. Je me suis dit, mais ces attaques sont tellement importantes, elles sont aujourd'hui caractérisées par l'arme blanche. Est-ce qu'on pourrait pas mener une action, en tout cas se documenter, travailler pour faire en sorte que on ne soit pas à ce chiffre dramatique de 120 attaques par jour? Donc on voit bien que, je vous cite cet exemple, mais il y en a bien d'autres, que cette situation, elle est nationale. Aujourd'hui, que souhaitons-nous faire? Nous souhaitons faire en sorte que, dans chaque quartier d'ailleurs, puisque vous savez, Marseille est une ville immense. Hein. Je vais encore vous parler des 11e et 12e arrondissements comme exemple. Mais les 11e et 12e arrondissements, c'est la ville de Perpignan. Les 13e et 14e arrondissements, c'est la ville d'Aix-en-Provence. Tout ça pour que vos auditeurs puissent avoir une idée de l'immensité de la ville, qui est beaucoup plus grande que Paris, puisque ça va de l'aéroport d'Orly à l'aéroport de Roissy, du bois de Boulogne au bois de Vincennes, pour avoir un petit peu cette carte. Et dans l'immensité de la ville, chaque quartier a ses, enfin chaque secteur, chaque les doubles arrondissements ont leurs spécificités. Parmi ces spécificités, eh bien, je vois dans notre secteur, les 11e et 12e arrondissements, qui sont des quartiers extrêmement étendus, puisqu'on a 240 km de voies. Nous, ce que nous souhaitons, c'est travailler avec la police municipale pour la tranquillité publique, dans deux domaines. Le premier domaine, bien évidemment, c'est par exemple, quand vous avez l'été, des personnes, des jeunes, comme on dit par faiblesse de langage, qui se retrouvent sur une place, qui fument, qui boivent des bières, ou des coca et qui jettent leur pizza ou leur McDo, qui crient, qui jouent au ballon ou à la pétanque la nuit, qui marchent sur les toits des voitures. Ça crée des troubles de voisinage. Tout le monde vit un enfer, les gens peuvent pas dormir, ils ont peur, etc. On voudrait que la police municipale puisse intervenir en première instance. Premier problème. Deuxième problème, c'est tout ce qui est propreté et délinquance de la propreté. Il faut que vous sachiez que dans mon secteur, mais c'est un exemple, et c'est pareil dans les autres secteurs, tous les lundis, une fois par semaine, on a 40 tonnes de jets clandestins. Qu'est-ce qu'on veut? On veut passer aujourd'hui à la répression pour ces délinquants de la propreté. Et là, on a besoin de la police municipale pour assurer de la tranquillité publique et de la salubrité publique. Et on a besoin que la police nationale, elle fasse son travail, et surtout que l'État nous aide à faire en sorte qu'on ait plus de policiers nationaux qui soient affairés à leurs affaires.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche avec Valérie Boyer, municipale ou pas, une tradition dans cette émission. Le morceau choisi par l'invité, et donc on va écouter Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,
what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Valérie Boyer, pourquoi ce choix Un monde merveilleux ?
J'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle exprime beaucoup de douceur et de gratitude pour la vie. Ben, moi, j'ai envie de dire merci la vie quand j'écoute cette chanson. Elle me touche. J'aime beaucoup la voix de Louis Armstrong et les paroles, j'allais dire, qui sont pleines d'espoir et de reconnaissance. Vous savez, Charles Péguy disait que l'espérance, cette petite fille de rien du tout qui peut tout. Et en écoutant Louis Armstrong, bien, je pense à ça. Et ça me, et à la fois ça m'émeut et ça me rend joyeuse.
Alors, on revient dans le débat politique.
En plus, c'est un temps de douceur.
Oui, c'est pas... bien. C'est toujours bienvenu dans une campagne.
C'est toujours bienvenu, toujours dans la vie.
Des choses plus âpres et une blessure pour cette ville, pour Marseille, c'était le drame de la rue d'Aubagne avec 8 morts, avec le logement indigne qui est revenu comme ça sur le devant du débat public. Que propose Martine Vassal pour faire face à ce problème ? Est-ce que le logement et le logement indigne va être une des priorités de cette campagne ?
Alors, plusieurs choses. C'est vrai que c'est un drame qui nous a marqués et qui nous marquera pendant longtemps. Ça, c'est une réalité et c'est une grande douleur. Nous sommes exprimés à plusieurs reprises sur cette question. Martine Vassal, bien évidemment, s'est exprimée, mais en tant que présidente du département, elle a agi immédiatement et elle a mis en place toute une série de mesures qu'elle a exposées à plusieurs reprises dans le cadre de son mandat de présidente du département et de présidente de la métropole. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la solidarité qui fait partie de son programme, dans le verbe partager, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui concernent les logements. Et c'est l'occasion pour moi, si vous me permettez, d'élargir un petit peu le sujet par rapport au logement et à l'urbanisation. Concernant l'urbanisation, un bon nombre de Marseillais vit dans ce qu'on appelle les quartiers périphériques, c'est-à-dire loin de l'hypercentre. Vous savez, cet hypercentre pour lequel François Hollande nous avait refusé d'avoir un plan de rénovation des quartiers anciens dégradés. Cet hypercentre pour lequel François Hollande avait refusé ou avait augmenté ce qu'on appelle la péréquation pour les quartiers, pour la politique de la ville, et par exemple a refusé à Saint-Marcel, c'est un exemple mais il y en a d'autres, de faire partie des quartiers anciens dégradés, de bénéficier de programmes de rénovation urbaine. Voilà, et c'est aussi une des difficultés qui a été la nôtre, parce que nous n'avons pas pu bénéficier à Marseille de la rénovation des quartiers anciens dégradés. C'est pas le seul problème, tout ça a été largement exposé, et Martine Bassal a fait part de son programme. Mais moi, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est que ailleurs dans Marseille, aujourd'hui, on nous reproche à tort d'avoir trop construit et mal construit. Et je vais vous citer encore l'exemple de mon secteur, mais c'est la même chose, les 11e et 12e arrondissements de Marseille, mais c'est la même chose pour le 9e, le 10e, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que entre 2012 et 2017, il y a eu une ministre écologiste, écolo, Madame Cécile Duflot, qui s'est piquée d'urbanisme et qui a décrété du jour au lendemain qu'il fallait construire, que c'était socialement bien, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour ça ? Elle a supprimé les coefficients d'occupation des sols. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur une parcelle, par exemple, où on avait ce qu'on appelle un COS de 0,20, ça veut dire qu'on pouvait construire, par exemple, 200 mètres carrés, eh bien, ce coefficient d'occupation des sols sautant, pour limiter les constructions, n'existait que deux choses, les limites de prospect, c'est-à-dire les limites vis-à-vis du voisinage, et les hauteurs. Or, jusqu'à présent, on arrivait à avoir un développement harmonieux, et notamment une ville qui arrivait à s'étendre dans les quartiers périphériques et qui répondait aux besoins des Marseillais, soit des très petits collectifs, soit des zones pavillonnaires, y compris d'ailleurs dans le logement social. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que les promoteurs sont allés voir des propriétaires en leur disant « Ben bonjour monsieur, votre terrain, il valait 100, je vous le rachète 200, je vous le rachète 300, parce que le prix du terrain ne vaut que par les mètres carrés qu'on peut y construire. » Et donc, peu ont résisté, bien évidemment, parce que c'est leur droit, c'est leur propriété, à cet appât du gain. Et nous, en tant qu'élus, moi en tant que maire, et puis mon successeur, Julien Ravier, en tant que maire, s'est retrouvé face à des propriétaires qui voulaient faire valoir leur droit à construire. Et même quand on mettait un avis défavorable, même quand la mairie centrale mettait un avis défavorable, nous étions attaqués par les propriétaires et les promoteurs par rapport au droit à construire. Et on perdait. Et on perdait de deux façons. La première, on perdait des procès donc qu'on payait avec l'argent du contribuable. Et en plus, à l'issue du jugement, les droits à construire étaient portés au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de négociation possible. Et nous avons vu fleurir dans nos quartiers plein de petits collectifs à côté de zones pavillonnaires qui arrivent dans des secteurs où il n'y avait pas la voirie nécessaire, où il n'y avait pas les transports en mode lourd, où il n'y avait pas non plus les services publics pour les accueillir, où les places de stationnement dehors étaient saturées, parce que vous savez ce que les gens font de leur garage, hein, ils mettent rarement leur voiture, etc., etc. Donc on s'est retrouvé dans une situation qui était l'inverse de ce que la verte Cécile Duflot préconisait. Et ça, aujourd'hui, grâce au travail qui a été entrepris dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, le fameux PLUI, eh bien, nous avons, planche par planche, avec les habitants, avec une concertation extrêmement large, eh bien, nous avons limité ces droits à construire dans les zones où il n'était pas possible d'accueillir tous ces logements.
Il y a 28 organisations de la société civile, Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, Petits Frères des Pauvres, Médecins du Monde, etc., je ne vais pas tous les citer, qui invitent les candidats à prendre 14 engagements, 60 mesures pour faire du logement décent un enjeu central des municipales. Et il juge que la ville de Marseille est très inégalitaire en termes de logements sociaux, qu'il faut des logements sociaux partout, y compris dans l'hypercentre. Et c'est rue d'Aubagne, par exemple, dans le secteur, il y a très peu de logements sociaux. C'est le logement indigne qui fait office, finalement, de logement social par défaut. Est-ce que, Martine Bassal, vous-même, vous êtes favorable à ce qu'on répartisse, on ne concentre plus le logement social dans les mêmes secteurs ? Et qu'on fasse du logement social un peu partout dans chaque programme, comme la loi y oblige. D'ailleurs, après, les maires peuvent moduler le taux de logement social. Est-ce que ça vous paraît une solution par rapport au problème et à la demande ?
D'abord, je crois que 70% des Marseillais sont éligibles au logement social à Marseille, parce que Marseille est une ville pauvre. Je voudrais quand même rappeler que du logement social, il y en a dans tout Marseille, que la fracture nord-sud, c'est quand même une certaine vue de l'esprit, puisque chaque secteur a des difficultés avec des poches de pauvreté.
Quand même concentré essentiellement au nord de la ville, on le sait.
Je crois que vous ne connaissez pas la vallée de Luvaune, vous ne connaissez pas les Hauts-de-Mazargues, la Soude, la Jarre, etc. Vous avez oublié le quartier de Saint-Marcel auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est quoi ? Enfin, c'est
la question, c'est est-ce qu'il faut, comme le demandent les organisations de la société civile, est-ce qu'il faut construire du logement social partout?
Ça existe déjà. Il y a du logement social partout. Je vais vous citer à Saint-Marcel. Nous avons des associations qui ont du logement dans le diffus. Nous avons Herbel, les escourtines, etc. C'est quoi? C'est du logement social, tout ça. Oui. Dans tous les secteurs, les lières, dans tous les secteurs de Marseille.
Vous venez de reconnaître qu'il y avait une demande qui n'était pas satisfaite. Est-ce qu'il en faut plus
La demande, elle est, c'est vrai qu'elle est immense à Marseille, mais je pense qu'il faut de l'aide pour le logement. Il ne faut pas construire non plus n'importe quoi, comme on a pu malheureusement le subir pendant longtemps, et surtout faire en sorte que si les Marseillais veulent accéder, y compris ceux qui sont dans des situations sociales les moins favorisées, accéder à la propriété, il faut les favoriser aussi, il faut les aider. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation un petit peu paradoxale. Avec le logement, il faut à la fois du logement social, nous en avons partout, et moi je récuse le fait qu'on dise qu'il n'y en a pas dans tous les quartiers, c'est entièrement faux, ce sont des gens qui ne connaissent pas Marseille ou qui ne veulent pas voir la réalité marseillaise qui le disent, parce qu'il y en a partout, et donc il faut entretenir notre parc, peut-être le développer, et surtout trouver des formes pour tout le monde.
40 000 logements insalubres dans Marseille, 3 000 personnes évacuées suite à la rue d'Aubagne. Un mot sur ces élus qui louaient des logements indignes. Le dernier en date, c'est Jacques Ansker, coordinateur des Assises de l'Habitat, d'ailleurs organisé par la
Métropole.
Il n'est
pas élu, monsieur Ansker?
Pas élu, effectivement, mais membre du comité de soutien de Martine Vassal et coordinateur des Assises de l'Habitat.
Vous ne pouvez pas le deviner. Hein.
Oui, donc là, erreur de casting?
Écoutez, moi j'ai connu Jacques Ansker en tant que président de la Banque Alimentaire. J'ignorais ses activités, je les ai découvertes par la presse. Hein.
Les époux Fluxus, avec Arlette Fluxus, qui était l'élu en charge du logement de Jean-Claude Gaudin.
Vous me posez des
toujours
questions.
Toujours en charge de ces questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de probité?
Vous me posez des questions sur des personnes dont on ignorait et qui ne font pas partie des listes de Martine Vassal.
Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'un élu, c'est Emmaüs, hein, moi je relaye des interrogations de la société civile, Emmaüs Pointe Rouge, qui invite les candidats à indiquer leurs opérations immobilières. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée pour se prémunir peut-être de mauvaises surprises comme ça? Est-ce que vous pensez que, vu ce qui s'est passé à Marseille, la blessure dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un avant, un après, et est-ce que c'est
les
prévu?
Les candidats de Martine Vassal ont tous laissé pour le dépôt de liste leur papier là du casier judiciaire nous engageons à signer la charte éthique nationale à ce sujet, d'ailleurs comme on l'a toujours fait. Mais vous savez, quand des personnes dérapent, elles sont rattrapées par la justice et c'est une bonne chose, mais on ne peut pas le deviner avant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire de procès d'intention, voilà. Et en tant qu'élu, je dois vous dire que nous, en tout cas moi, en tant que parlementaire, c'est pareil pour les maires, etc., nous faisons des déclarations à la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique. Ces déclarations, en plus, elles sont visibles sur le site de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique. Donc, ces choses-là existent déjà.
D'accord, donc vous pensez qu'effectivement, par exemple, Frédéric Bousquet, c'est un autre élu...
Frédéric Bousquet n'est pas sur les listes de Martine Vassal.
Donc voilà, donc le problème pour vous est... sur les listes, il n'y a pas de problème de ce type-là. Vous
avez vérifié. En tout cas, je les ignore.
D'accord.
Toutes les personnes que vous me citez ne sont pas sur les listes de Martine Vassal.
Autre dossier qui préoccupe beaucoup les Marseillais, les écoles, avec des attentes énormes. Alors, il y a eu ce cafouillage là autour du partenariat public-privé pour rénover 34 écoles, des recours juridiques. Finalement, je crois que Martine Vassal n'est pas favorable à recourir à ce procédé pour financer la rénovation des écoles. Là, il y a un chantier important, primordial. Vous le qualifierez comment, le chantier au niveau des écoles pour le...
Alors, je voudrais que vos auditeurs prennent conscience de la façon dont ça se passe quand on est maire et quand on a des écoles. Dans le 11e et 12e arrondissement, je prends toujours le secteur que je connais parce que au moins c'est concret. quand vous êtes maire, vous avez ce qu'on appelle des conférences de programmation tous les ans et vous avez un budget. Le budget, il est exactement identique, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, puisque c'est un budget qui est quelques euros par nombre d'habitants. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Sur ce budget, vous faites part de vos priorités. Aujourd'hui, tous les élus, enfin toutes les écoles ont un élu référent qui va au conseil d'école. Vous savez, des adjoints d'arrondissement, des conseillers municipaux, etc. Et lors de ces réunions, qui ont lieu plusieurs fois dans l'année, le conseil d'école fait part aux élus référents des difficultés que l'école rencontre. À l'issue de ces réunions, eh bien, on se voit avec le maire, avec les services de la mairie centrale, pour voir quels sont les travaux qui sont nécessaires, etc. Ben moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que Julien Ravier a toujours fait dans ses écoles. Alors effectivement, il y a des écoles qui sont plus anciennes, dont d'autres qui sont plus récentes, d'autres qui ont des accidents, etc. Mais au fur et à mesure qu'il y a des difficultés, eh bien nous les gérons soit avec le personnel de la mairie de secteur qui répare par exemple des toilettes bouchées, je suis désolée de parler de ça, mais ça fait partie aussi de la réalité du quotidien, des petits travaux, etc. Soit avec des travaux plus importants en fonction des besoins ou des rénovations plus importantes en fonction de la vétusté des écoles ou des mises aux normes. Par exemple, on change les fenêtres, les portes, etc.
Mais c'est la mairie centrale qui définit le portefeuille dans lequel les mairies de secteur peuvent puiser ou pas.
La mairie, oui et non. Enfin, ce que je vous disais, le budget, il est fait par chaque mairie de secteur en fonction du nombre d'habitants. Donc, c'est-à-dire, il y a quelques euros par habitant. Et là-dessus, vous faites vos priorités. Et pour les écoles, eh bien, nous les suivons une par une dans les mairies de secteur. Et on ne découvre pas les choses du jour au lendemain. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on se préoccupe de ces écoles au quotidien, eh bien, on a moins de difficultés. Maintenant, effectivement, Marseille est une ville où il y a de très nombreuses écoles, puisqu'on en a plus de 450 de mémoire, ce qui est énorme. C'est un énorme patrimoine. Et ce patrimoine, il est entretenu. Certaines doivent être rénovées, d'autres doivent être construites. Je sais que chez nous, on a plusieurs écoles qui doivent être refaites. Par exemple, la Grande Bastide Cazot fait partie des écoles qui doivent être refaites.
Il y a quelque chose qui a interrogé, justement, le retard au niveau du bâti. La mairie avait pointé 34 écoles vraiment en état d'urgence et avec un plan de rénovation dont on a parlé en PPP. Il y a le forfait communal de Marseille pour les écoles privées catholiques qui a toujours été bien majoré puisqu'il a été augmenté de 230% depuis 1995, l'élection de Jean-Claude Gaudin. Est-ce que dans une ville où les écoles publiques sont souvent en souffrance, pour des raisons aussi historiques, vous disiez très nombreuses, est-ce que c'est normal pour vous d'investir aussi autant d'argent sur les écoles privées de la ville?
Est-ce que c'est normal d'appliquer la loi? C'est ça la question que vous me posez?
Bon, le forfait, la majoration, la mairie qui décide.
Non. Je crois que, excusez-moi, vous êtes mal renseigné. D'abord, la loi dit que les parents ont le choix de l'école. Donc, les Français ont le choix ont cette chance-là de pouvoir choisir une école dans l'enseignement privé, qu'il soit catholique ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a de l'enseignement privé qui n'est pas catholique, ou dans l'école publique. Donc, c'est une chance importante aujourd'hui. Deuxièmement, mais c'est une chance qui est limitée, puisque vous savez que les écoles privées sous contrat, on ne parle que des écoles sous contrat, on est bien d'accord, on ne parle que des écoles sous contrat. Les écoles sous contrat sont limitées beaucoup plus que les écoles publiques en termes d'ouverture de classe, etc. Ensuite, sur le plan du forfait, eh bien, c'est la loi et les Marseillais y payent des impôts. Avec le choix de l'école. En revanche, les parents qui mettent leurs enfants dans des écoles privées sous contrat, ils sont pénalisés. Pourquoi ? Parce que eux ne bénéficient pas de l'aide pour la cantine. Or, tous les Marseillais aujourd'hui, tous les petits Marseillais aujourd'hui sont pris en charge pour l'aide pour la cantine, puisque vous savez que les parents qui, quand ils payent, je ne parle pas de ceux qui sont pris en charge totalement ou à moitié sur le plan social, mais les parents qui payent le tarif le plus élevé, eh bien ça ne couvre pas le tarif total du repas. J'ai plus en tête le prix des repas.
D'accord. Donc les écoles publiques n'ont pas à être prioritaires, ça, sur les écoles privées, selon vous?
Ce que je veux vous dire, les écoles privées ne sont pas prioritaires sur les écoles publiques. Hein.
Non, mais la question est la terminer. Est-ce qu'il ne faut pas prioriser l'aide sur les écoles publiques?
La question n'est pas là. D'abord, il n'y a pas à prioriser l'aide sur les écoles publiques. Payer un forfait à l'enseignement privé, c'est la loi et c'est normal, d'une part. Et d'autre
et après,
part,
les maires décident de le majorer ou pas?
J'insiste sur le fait que... les enfants, vous savez, ils ont le droit de vivre aussi, y compris dans des écoles privées. Hein. Je vois pas pourquoi ils seraient pénalisés. Ils le sont déjà assez par la cantine, qui n'est absolument pas prise en charge, alors qu'elle est prise en charge pour les enfants des écoles privées. Et les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées, la cantine n'est pas prise en charge. Et en plus, ils payent donc pour la cantine du public et ils payent pour la cantine du privé, plus pour les enfants pour lesquels l'enseignement privé demande de la solidarité pour les enfants qui, dans le privé, ne payent pas la cantine. Donc, je ne vois pas pourquoi on pénaliserait les enfants du privé alors que c'est un droit, alors qu'en plus, l'enseignement privé répond à des obligations de service public et l'enseignement privé s'est installé dans tous les quartiers de Marseille et accueille tous les enfants.
Il y a beaucoup d'autres enjeux dont on ne va pas avoir le temps de parler puisque l'émission va bientôt se terminer. Martine Vassal vient de lancer un appel au vote utile. C'était à l'AFP il y a pas longtemps. Il y a une division à droite. C'est la candidature de Bruno Gilles. Hein. Pourquoi cet appel? Et cette division n'a pas été surmontée, visiblement. Les listes sont déposées. Est-ce que vous pensez que vous allez surmonter cette difficulté par rapport à l'échéance qui arrive?
Je le pense et je l'espère parce que je pense que la candidature portée par Martine Vassal est à la fois une candidature de rassemblement et d'expérience. Et aujourd'hui, elle arrive en tête dans tous les sondages. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est la liste de Martine Vassal qui gagne. On sait très bien que c'est pas la dissidence de Bruno Gilles ou de Samia Ghali qui va pouvoir l'emporter. C'est une réalité. Ce sont les extrêmes qui vont l'emporter, que ce soit du côté du Rassemblement national ou du côté du Printemps marseillais, ce Printemps marseillais qui répond avec ce très joli nom, mais qui ressemble plus à l'hiver de Staline, puisque ce sont les communistes, les insoumis et d'autres partis politiques qui prônent le PS sans étiquette. Hein, ce sont parce que ceux qui sont partis du Parti socialiste au Printemps marseillais il n'est pas parti avec son étiquette Parti socialiste, puisque le Parti socialiste a refusé d'aller au Printemps marseillais. Donc effectivement, sauf pour ceux qui souhaitent que la ville soit aux mains des extrêmes, moi je ne souhaite pas ça pour la ville de Marseille. Je pense que le vote utile, le vote raisonnable, le vote d'avenir, le vote qui permet à tous les Marseillais d'être rassemblés et réconciliés, c'est le vote pour Martine Vassal.
Il y avait Yvon Berland, le candidat d'En Marche, à votre place, dans ce studio, et qui tenait à peu près le même discours sur la nécessité de faire barrage aux extrêmes. Alors je sais que vous êtes concurrent, il y aura un second tour. Est-ce que pour éviter... Alors il y a le RN, le Front National qui est haut dans certains secteurs. Est-ce qu'il serait envisageable au second tour de rassembler autour de Martine Vassal des marcheurs, si nécessaire, ou d'autres?
Écoutez, on verra, mais on peut, vous savez, si on se base sur les sondages aujourd'hui, effectivement, les listes d'Emmanuel Macron, représentées par Yvon Berland, sont créditées de moins de 10%. Déjà, moi, je pense qu'on ne s'improvise pas maire de Marseille à l'issue d'une brillante carrière. Non, mais à l'issue
10%, ça peut faire une élection au deuxième tour.
Elles font moins de 10%. À l'issue d'une brillante carrière, on ne s'improvise pas maire de Marseille. Il faut de l'expérience, il faut de la compétence dans la gestion, dans porter des projets, etc. Et aussi dans le rassemblement. Je crois que c'est pas du tout sur ce projet-là que les listes de La République en Marche sont conduites. Donc, moi, je pense que la candidature qui est une candidature solide, qui est une candidature qui s'adresse à tous les Marseillais, qui est une candidature qui se base sur un projet qui est construit et qui est co-construit avec les Marseillais, eh bien c'est celle de Martine Vassal.
Valérie Boyer, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre émission et ça sera Michel Rubirola, tête de liste du Printemps marseillais, qui sera invité de l'émission. Merci.
Merci à vous.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.